France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Si vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est quoi un doc, lui demande-t-on? C'est de redonner, dit-il, une place à des anonymes que je trouve héroïques. Et c'est tout l'enjeu de ces films sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Et bienvenue dans ma vie, dit-elle. Sylvie, cadre infirmière, depuis 40 ans à l'hôpital Nord à Marseille. Sylvie, oui, l'héroïne de votre film, c'est Madame Hoffmann. Bonjour Sébastien Lifshitz.
Bonjour.
Le portrait d'une femme en lutte dans le monde de l'hôpital. Elle est, malgré les épreuves, spontanée, sans filtre, sincère. Madame Hoffmann sur les écrans mercredi prochain. Un triptyque signé Nicolas Philibert sur une psychiatrie qui s'efforce de réhabiliter la parole des patients. Bonjour Anne-Laure Delettre.
Bonjour.
Votre ambition comme interne, lier le corps et l'esprit et écouter ceux qui souffrent et les suivre jusqu'à leur domicile comme vous le faites. Bonjour Bruno Voyot.
Bonjour.
Et réparer au sens propre et figuré. Tous les deux à l'affiche après La Damante, Daveroès et Rosa Parks sortis le 20 mars et La Machine à écrire et autres tracas sur les écrans le 17 avril. Enfin, les sorties de ce mercredi avec des films qui voyagent. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
J'étais une jeune fille insouciante, inconsciente par moments, tu vois. J'étais. Mais vraiment hors du temps, quoi. Et là, d'un coup, tu te retrouves infirmière. J'ai vieilli d'un coup. Tous ces corps qui partent, la détresse des gens, tu peux pas l'oublier. Tu peux jamais l'oublier. Les gens, ils croient que tu es un robot, tu vois, que tu, oui, tu maîtrises bien les choses, tu fais bien. Oui, tu leur fais croire. Tu leur fais croire, tu fais toutes les choses bien comme il faut. Mais au fond de toi, mais tu es détruit. Tu es détruit, tu viens de voir partir quelqu'un, tu viens de voir sa fille pleurer. Comment tu veux ne pas être détruit? Tu es détruit. Alors les gens, ils ont l'impression que oui, Sylvie, elle maîtrise, elle sait bien faire, elle est toujours mais à l'intérieur. Mais j'ai tous mes boyaux qui ont fait comme ça, qui, je dis toujours, je me liquéfie de l'intérieur, c'est-à-dire de l'extérieur, rien ne se voit. Et à l'intérieur, j'ai tout mon organisme qui part, je suis en autodestruction.
Madame Hoffmann, votre film Sébastien Lifshitz, autour de Sylvie épuisée, physiquement, moralement, après 40 ans d'activité comme cadre infirmière à l'hôpital Nord à Marseille, elle consacre toutes ses journées aux autres. Mais à l'origine, avant qu'elle n'arrive, vous vouliez absolument faire un film sur l'hôpital, avec les effets un peu du Covid avant, pendant, après?
Pas du tout.
Avant?
Non, pas du tout.
C'est ce que j'ai lu quelque part.
Ah bon? Bon, je ne sais pas.
Bon. Mais c'est pas venu d'abord avec elle. Vous l'avez trouvé après, Sylvie.
Non, en fait, c'est venu au moment de la fin du tournage de Adolescente.
Oui.
En fait, Anaïs, à la toute fin, fait un stage en tant qu'aide-soignante à l'hôpital.
Oui.
Et j'ai été très marquée, en fait, par cette espèce de relation qu'elle construisait avec les infirmières. Il y avait une sorte de transmission de savoir. Il y avait comme ça deux générations de femmes. Et tout d'un coup, j'ai commencé à imaginer quelle femme serait Anaïs dans 20 ans. J'avais cette espèce de projection un peu fantasmée d'elle, quelle infirmière elle allait devenir, quelle vie elle allait avoir en tant que femme. Et vraiment le désir du film, l'idée du film, elle est née à ce moment-là.
Et quand même raconter l'hôpital autour, parce que il n'y a pas que Madame Hoffmann à l'hôpital, il y a toute une troupe d'infirmières, il y a le chirurgien, il y a une empathie générale.
Bah, ça c'est sûr qu'à partir du moment où vous rentrez dans un service, vous filmez ce qu'est en grande partie l'hôpital, son fonctionnement, qu'est-ce que c'est qu'un collectif. Mais surtout pour moi, l'hôpital c'était aussi un lieu un peu miroir de la société. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'était prendre le pouls de la société française pendant une année comme ça, filmer à la fois le personnel soignant et les patients. Et c'était un lieu d'observation pour ça qui était fantastique. Mais le Covid est arrivé et je m'y attendais pas du tout.
Mais c'est drôle que ça soit parti quand même de l'image d'une jeune fille, parce que le film montre qu'elle ne sera jamais plus comme Madame Hoffmann, que les jeunes infirmières ne pourront plus être comme, comme le personnage central. Parce qu'elles en peuvent plus déjà, parce que dès qu'elles rentrent dans ce système...
C'est... Et qu'elles se rendent compte qu'elles ont encore 30 ans,
exactement,
20 ans à faire.
Donc, c'est ça qui est paradoxal presque.
Mais c'est pas la même génération, c'est-à-dire que Sylvie appartient vraiment à une génération d'infirmières très très singulière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le personnel qui arrive, tous les jeunes qui vont dans la médecine, ont un autre rapport en fait au travail. Mais au tout début, en fait, j'avais écrit un texte, parce que quand on fait un documentaire, il faut trouver de l'argent. J'avais écrit un texte, en fait, qui était une pure fiction, où j'avais imaginé une infirmière qui s'appelait Christelle, et le projet s'appelait Madame K. Et cette femme avait à peu près 35 ans, elle était divorcée, deux enfants, et en gros, elle n'arrivait jamais à finir ses fins de mois, elle faisait des heures sup, etc. Et j'avais tellement cette référence dans la tête, qui est un peu une sorte d'archétype, un peu des infirmières. Et puis le hasard m'a amené Sylvie, qui avait juste 20 ans de plus. Et Sylvie m'a dit, tu sais, cette femme que tu as cherchée pendant des mois, mais en fait, c'était moi, mais j'ai juste 20 ans de plus, parce qu'à 35 ans, c'était exactement ma vie. J'étais séparée, deux enfants, et je faisais des heures sup, vraiment, veux-tu, en voilà.
L'hôpital et ses problèmes, et on va l'écouter au téléphone, Sylvie.
Non, moi j'en ai marre, parce que à chaque fois on pioche chez moi sous prétexte que j'ai trois infirmiers, hormis que personne ne fait attention que j'ai trois infirmiers parce que j'ai un service de soins palliatifs. Donc je me retrouve avec un service de soins palliatifs, avec deux infirmiers, des fois qu'une aide-soignante au lieu d'en avoir deux. Non mais il y en a marre quoi, j'en ai marre, et je vois que les équipes elles en ont marre aussi, tu vois, c'est à un moment donné c'est plus possible quoi. À un moment donné ils mettent les gens à bout, si tu crois que ça intéresse quelqu'un, qu'on n'est pas d'infirmier, qu'on n'est pas d'aide-soignante, moi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, personne ne te répond. Donc à un moment donné, c'est plus possible. Tout le monde est à bout, même moi je suis à bout. Alors te dire. Voilà. Bon, donc je vais te détacher, Kevin, et à partir de demain, moi j'aurai un infirmier en moins sur mes plannings. Voilà. Bienvenue dans ma vie.
Elle est d'un naturel, cette Sylvie. La caméra l'a pas gênée.
Et jamais.
Et vous, comment vous êtes entré dans cet hôpital? Parce que c'est pas forcément facile de filmer ce fonctionnement au quotidien.
Mais ça a été assez incroyable, parce que je me souviens, là, le premier plan que j'ai filmé de Sylvie, c'était un lever au tout petit matin. Il devait être 5h30 du matin. Et il y a eu une espèce de, je dirais, de chorégraphie qui s'est tout de suite mise en place entre elle et la caméra sans que je dise quoi que ce soit. Une sorte de synchronicité, et j'ai été très surpris de ça. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit que dans le fond, quand on est cadre infirmière, on met en scène, je dirais, son autorité, son savoir. On est quelqu'un qui est quand même habitué à être en contrôle, parce que vous êtes souvent dans des situations très délicates, où vous devez faire des annonces soit aux familles, aux patients. Et donc Sylvie, c'est quand même quelqu'un qui a appris à se mettre en scène. Et d'une certaine manière, je pense que la présence de la caméra, pour elle, n'était pas du tout un élément perturbateur, en fait. Elle sait être devant les autres, ça change en rien son comportement. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé aussi au tournage.
Le film s'est beaucoup construit avec elle, parce que vous avez découvert, nous aussi, sa vie privée, sa vie en dehors de l'hôpital. C'est de la fiction, c'est hyper chargé. Je veux dire, c'est grâce à elle que vous pouvez faire cet itinéraire de film.
C'est-à-dire que, en tout cas, il y a une part très romanesque, ça c'est sûr, dans sa vie. Il y a la présence de sa mère, il y a son compagnon qui vit dans les Alpes. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'éléments, mais au début, je savais pas tout ça. Sa mère, je l'ai découvert un peu au détour d'une conversation. Elle me dit, tiens, je dois aller voir ma mère. Donc évidemment, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et je lui dis, est-ce que je peux t'accompagner? Et tout d'un coup, je découvre Micheline. Alors Micheline, c'est juste un personnage.
Tu ouvres un film à elle toute seule.
C'est du pagnol, les deux là.
Ah mais total.
Mais ouais. Elle s'appelle Micheline, elle était immigrée italienne, orpheline à 7 ans, entrée à l'hôpital comme femme de ménage. Elle est devenue aide-soignante, elle est passée par 5 cancers, et on a choisi cette scène entre toutes les deux.
Maman, mais que le bon Dieu me fasse que je suis comme toi à ton âge, franchement.
Oh, mais écoute, je t'ai dit qu'à 100 ans, je paierai le champagne.
Et volontiers.
Il est déjà sur le balcon.
Volontiers.
Oh, il vaut mieux rire que pleurer, qu'est-ce que tu veux faire?
Alors, même ça.
Mais celle-là, je ne m'attendais pas à avoir encore un cancer à mon âge. Avec tout ce que j'ai eu, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, mais il n'est pas content de moi. Hein.
Non, je crois que c'est tes gènes, maman, tu le sais.
Tu as le gène du cancer. Mes gènes, ils n'auraient pas pu être autres que ça.
C'est pour ça que maintenant, il faut espérer que j'ai pris les gènes de papa et pas les tiens.
Ben oui. Alors, j'ai pris les gènes de mon père, que je n'ai jamais connu. Lui, ma fille, le diabète. Il est mort à Buenos Aires, complètement aveugle dans un hôpital.
Alors, ça lui a pas porté chance.
Voilà, c'est bien fait.
De t'avoir abandonnée, de t'avoir laissée toute seule.
Oh, purée. Lui, il a ça, ma mère a le cancer. Et le reste de la famille, je ne sais pas, heureusement. On m'a toujours dit, ton grand-père, il est mort à 84 ans avec toutes ses dents. J'ai dit, mais moi, j'en ai plus aucune.
Telle mère, telle fille, un naturel fou. Vous êtes là avec vos caméras, bon, vous pouvez laisser tourner. Hein.
Ah ben là, ça, je me souviens, c'était un plan séquence qui faisait plus de 20 minutes, qui était juste incroyable. Alors, j'ai pas pu évidemment mettre les 20 minutes dans le film, ouais. Mais juste le plan séquence qu'il y a, et qui doit durer à peu près 5 minutes dans le film, était incroyable, à la fois de drôlerie, de complicité entre elles. Parce que c'est quand même deux générations de femmes, ouais, qui sont très différentes face à l'expérience qu'elles ont eue de l'hôpital, face, ouais, à la maladie. Elles pensent pas du tout la même chose.
L'une est croyante, l'autre pas, et ça pèse beaucoup.
Exactement. Micheline, elle, est dans cette idée qu'il faut, accepter dans le fond ton destin. Tu es malade, tu n'agis pas sur ton corps, tu acceptes tout simplement ce que la vie t'amène. Alors que Sylvie est au contraire beaucoup plus pragmatique, et on ne se laisse pas faire, on se bat. Et on fait tout pour s'en sortir.
Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce film? Vous voyez, en fait, il nous raconte l'hôpital, il nous raconte donc l'hôpital public, il nous raconte une femme, une héroïne, il nous raconte un milieu, il nous raconte deux générations. Il y a beaucoup de choses, hein, dans ce film.
Il raconte tout ça, mais c'est surtout le parcours d'une femme, en, ouais, fait. C'est ça, il retrace, en fait, le parcours de Sylvie jusqu'à la femme qu'elle est aujourd'hui. Et ce moment, quand même, assez important pour elle, qui est... en gros, d'abandonner ce monde du travail et cette passion qu'elle a eue de l'hôpital et son métier d'infirmière. Et c'est un moment vraiment charnière quand même. Et c'est difficile quand même d'abandonner de quitter quelque chose qui vous a structuré pratiquement toute votre vie. Et d'ailleurs, elle avait une forme de culpabilité énorme de laisser ce service, d'abandonner ses filles, comme elle dit.
Ouais.
Ça a été très compliqué pour elle, en fait, de prendre cette décision.
Ouais. L'un de vos films s'appelle Les Invisibles. Tous vos films pourraient s'appeler Les Invisibles.
Ouais.
Hein, c'est vrai.
J'ai cet amour de ces gens anonymes. C'est une manière. Peut-être qu'un film, c'est aussi une façon de leur donner une place. Parce que ce sont des gens qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas souvent. Mmh. Et je trouve qu'il y a une part tellement romanesque et profonde et qui résonne tellement en nous. Juste simplement de les voir, de les écouter et de ne pas être toujours incarné à travers soit des acteurs ou des histoires, je dirais, bigger than life, en fait. C'est, dans le fond, il suffit simplement de regarder n'importe qui dans la rue, de s'arrêter et de voir qu'il y a un film possible avec chacun.
En fait, vous n'êtes plus seul, Sébastien Lifshitz. Vous vous êtes recréé une famille avec tous ces gens que vous filmez, non?
Oui, c'est sûr.
C'est comme une reconstruction,
presque. Ça fait du monde dans ma tête.
Oui. Ben oui, ça fait pas mal de monde, hein.
Ouais.
Et ça fait du bien.
Ben oui, c'est des choses. C'est comment dire, c'est des gens qui m'accompagnent, qui sont entrés dans ma vie. C'est pas juste des gens que j'ai filmés un moment et puis après, ouais, ciao, pas du tout. Je continue de les appeler, on se voit. C'est, oui, comme vous dites, c'est une seconde famille.
Ça s'appelle Madame Hoffman et ça sort mercredi prochain. Là, on va aller dans un autre monde, celui filmé par Nicolas Philibert.
Je crois qu'on guérit de la folie.
Ouais.
Mais moi, je vais guérir. Mais ça serait... Je suis persuadée que je vais guérir.
Ça serait quoi, guérir de la folie?
Prendre un médicament, aller voir le médecin, m'occuper la journée, et avoir de la lucidité.
Bon, et vous, d'accord, pensez que vous serez mieux comme ça?
Je passe de bons moments.
Oui, c'est ça.
La folie, refuser son pittoresque, écouter et accueillir une parole, c'est tout l'enjeu de ce triptyque signé Nicolas Philibert sur l'Adamant et puis pour compléter cet hôpital bateau de jour, Averroès et Rosa Parks, ensemble deux unités de l'hôpital Esquirol qui relèvent du pôle psychiatrique de Paris-Centre. Dans ce deuxième opus, Nicolas Philibert a filmé des entretiens individuels et des réunions soignants-soignés. Anne-Laure Delettre, vous êtes avec nous ce matin, interne en psychiatrie, vous faites partie de ces médecins qui écoutent. Prendre en considération la parole quand tout le système finalement s'appuie sur les médicaments?
Ben oui, mais après, je trouve que à la différence de sur l'Adamant, Averroès et Rosa Parks, ça peut s'identifier à tous les lieux de soins hospitaliers ou pas, enfin tous les modes de consultation où on se retrouve dans cette relation duelle, un soignant et un patient. Et cette parole-là, elle n'est pas que dans cet hôpital-là, elle n'est pas que dans ce film-là. Je pense qu'il y a, au-delà de cet hôpital-là, dans beaucoup de lieux de soins, on essaye de continuer à avoir cette parole au-delà des médicaments. Je pense que les médicaments, des fois, sont indispensables, mais ne vont pas sans une psychothérapie, sans une écoute, sans une relation. relation.
Claire. Écouter leur histoire, ce qui les tourmente, la quête de sens qui les taraude, leurs espoirs, les laisser parler, quoi.
Bah oui, mais comme tout le monde a besoin de parler.
Et relancer comment, alors? À quel moment on choisit
c'est à quel science. Moment c'est une science, c'est de l'instinct.
C'est de l'instinct.
Moi, j'ai commencé mon internat par la psychiatrie, mais maintenant, je suis généraliste. Donc, finalement, j'ai pas eu tant de formation que ça en psychothérapie, en relation, en parole.
Mais ce que vous avez fait, vous êtes pour ce que vous faites maintenant ou pas, en généraliste?
Vous voulez...
D'avoir côtoyé ça, d'avoir côtoyé...
Si ça me sert maintenant, la relation, l'écoute, on en a tout autant besoin en médecine générale.
Ouais.
Il faut savoir que maintenant, on peut devenir généraliste sans être jamais passé en psychiatrie, sans avoir jamais vu les patients psychiatriques.
Et c'est pas bien, selon vous?
Ben non, c'est une aberration, on en voit tout autant en médecine générale, c'est le soin de premier recours. Il y a beaucoup de pathologies de l'esprit qui se manifestent par le corps, et c'est ça que moi je veux travailler, et je veux qu'on arrive à travailler ensemble avec les psychiatres, parce qu'ils en parlent dans le film. La place du généraliste, elle est là dans le film, ils en parlent, ils disent qu'il n'y a pas que la psychiatrie, qu'ils veulent qu'on leur parle d'autres choses, et on ne le voit pas, mais il est là. Donc je pense que c'est très important qu'on travaille ensemble.
On va écouter cet entretien avec beaucoup de blessures de l'enfance.
Il n'y avait pas de tendresse, il n'y a jamais eu un « je t'aime » de ma part, de mon père, de ma mère, moi. Ils ne m'ont jamais dit « je t'aime », ils ne m'ont jamais dit « je t'aime ».
Vous leur disiez, vous?
Non, moi je ne leur disais pas, mais ils en avaient... Non, je ne leur disais pas, désolé. Ils ne le disaient pas, moi je ne vois pas pourquoi je leur aurais dit.
Et donc après ça, là, vous avez travaillé quelque part, vous avez...
Faire de cuisine, mais bien plus tard.
De la cuisine?
La cuisine.
Dans quoi? Dans un...
Dans un CAT, dans un centre d'aide par le travail. Mais ça revient bien plus tard, ça aussi, en plus.
Ouais.
Après le bac, j'ai essayé la psychologie. Après la psychologie, j'ai essayé l'histoire de l'art. Après l'histoire de l'art, j'ai essayé les langues vivantes avec le catalan, parce que je pratique, parce que je suis... catalan par ma mère. J'ai fait de l'archéologie en histoire de l'art, mais je me souviens de rien. Ne vous posez pas la question de l'archéologie, je suis archi nul, moi. Moi, ça m'intéressait pas. Je préfère aller jouer aux échecs, ou alors avec les copains, aller taper dans le ballon, aller jouer au football, aux Tuileries, mais je faisais tout sauf de l'histoire de l'art, tout sauf de la psychologie, tout sauf des langues vivantes. Je n'avais rien à foutre des je n'avais rien à foutre. Moi, je voulais essayer de faire du football. J'aurais dû me laisser faire du football.
Vous seriez Anne-Laure de Lettres?
Bah oui, il est formidable. Ouais. C'est cru, ça ne s'invente pas. C'est incroyable.
La place de la caméra, là, pour le coup, étant dans un hôpital, ça peut mieux s'expliquer. Mais là, c'est compliqué, non?
Nicolas Philibert était connu des patients, était là depuis un moment avec Sur la Dame en avant, notamment François qu'on vient d'entendre était aussi sur la Dame en, donc il le connaissait. Et pour cette fois-là, on avait la chance d'avoir une grande salle, donc les caméras étaient disposées, on avait de la place, on avait de l'espace. Ben, elles étaient relativement proches, mais on avait de l'espace, on respirait. Mais la façon dont Nicolas Philibert a filmé l'entretien était très libre et on avait tout le temps qu'on voulait, qu'on pouvait prendre. Donc on avait le temps de s'installer dans cette relation et de s'habituer à ces caméras, à la présence de l'ingé son, à la présence de Nicolas.
Ça peut leur faire du bien, vous croyez?
Ça peut leur faire du bien, ça peut leur faire du mal. Oui, ça peut leur faire du bien dans le sens où, pour une fois, on leur donne la parole. Pour une fois, ils sont sur le devant de la scène, ils ont l'occasion de s'exprimer, de raconter leur vie. Donc, dans ce sens-là, ça peut leur faire du bien, je pense.
Il y a beaucoup de silence aussi.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les silences, dans les regards...
Il y a un truc qui m'a étonné beaucoup quand le psy s'en va, la caméra reste sur le sur lui, sur le soignant, sur le soigné, pardon, et il ne profite pas du tout de ce moment-là pour parler à Philibert ou qui le filme. Ouais. Il est complètement dans sa tête et comme s'il retenait pour repartir sur cette conversation.
Bah oui, mais je pense qu'au final, les soignants, on a peut-être été ceux qui ont été le plus perturbés par la caméra.
Oui, tu prouves que la caméra le perturbe, qu'il ne s'adresse pas à la caméra.
Non.
Qu'elle n'est pas là pour lui.
Non, mais il reste dans la relation avec le. Il reste dans ce qu'il était et il y a une ligne directrice qui reste là. Je ne sais pas comment ça s'explique.
Sébastien Lipschitz, vous avez vu le film et vous, c'est une autre personne qui vous a étonné aussi dans Averroès. Non, c'est dans La Machine à.
C'est dans La Machine.
Oui.
Oui, il y a Muriel que je trouve être une patiente assez incroyable et d'une poésie folle, surtout quand elle part de cette la mort noire, la mort blanche, les silences blancs, comme ça, il y a quelque chose... c'est un personnage qui m'a énormément touché.
Une grande mélancolie.
Oui, et puis il y a ses photos au pied de son lit, et Nicolas lui dit, ça c'est quoi? Elle lui dit, ça ce sont mes rêves. Comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des phrases insensées comme ça qui sortent, et vraiment qui restent en vous.
L'idée, c'est de lier le corps et l'esprit à une heure de l'être.
Ah oui. Bah, première chose, les traitements qu'on donne en psychiatrie ont forcément un impact sur le corps, sur le métabolisme, sur l'hémodynamique, sur la tension, sur et tout ça, ça peut impacter l'humeur, ça peut impacter comment les gens se sentent, et c'est pas forcément de la psychiatrie pour autant. Je trouve que le souci, c'est que souvent, quand les gens sont en psychiatrie, le psychiatre devient un peu le médecin traitant. Enfin, il y a moins de soins somatiques qui sont prodigués parce que ils sont en dehors de ce système de société. Il y en a une qui dit à un moment, se soigner, c'est faire comme tout le monde. J'ai trouvé ça très beau, très drôle, et on peut le lier à ça, faire comme tout le monde, c'est aller chez son médecin et faire son bilan, son dépistage, et souvent les patients en psychiatrie ils sont un peu en retard là-dessus.
Mais bon, on va écouter François justement sur ces médicaments.
Le problème des antidépresseurs sur moi, le problème c'est que ça m'en surexcité un peu, vous voyez ce que je veux dire. Les tendances à...
Là vous avez l'impression que ça va comment?
Je me sens plutôt bien avec. Bon, est-ce que ça va suffire pour l'extérieur, si je vais à l'hôtel, tout ça, est-ce que je vais pas me remettre à déconner?
De toute façon, on vous lâche pas, même si vous partez à l'hôtel.
Ah oui, je suis bien,
S'il y a besoin, il y a toujours du monde.
Ah oui, heureusement.
Vous dormez bien en ce moment?
Oui, ça va, mais autant pour vous, on fait pas cadeau au niveau des somnifères. J'ai comme 5 téralènes, ça rigole pas, hein.
Vous pouvez lui demander à baisser un peu si jamais c'est trop.
Oui, mais j'ai peur de mal dormir, docteur.
Oui, c'est ça. Si elle a mis autant, c'est que vous dormiez mal. Donc
exactement. Du tout. Parce que, bon, est-ce que ça va en ce moment? Alors, oui, très bien. Oui, ça va. Bon, mais parce que ça va bien, on va modifier le traitement. Mais non, à partir du moment où ça va bien, qu'est-ce que tu vas bouger le traitement? C'est justement là qu'il faut laisser le traitement, espèce d'idiot de psychiatre. Bon, je vais pas citer. Non, mais ça va bien? Ah, bon, on va modifier le traitement alors. Ça, un peu moins. Ça, mais non, laisse, je sais bien, ça va. Qu'est-ce que ça peut faire que je prenne autant de médicaments? Tant que ça va, qu'est-ce que tu vas bouger le traitement?
Ça fait quoi de se faire traiter de psychiatre de merde, Anne-Laure de Lattre?
Bon, je l'ai pas pris personnellement. Je l'ai pas.
Non, après voilà, c'est dans cette relation, faut que ce soit important qu'ils puissent dire ce qui leur va ou pas aussi, quoi.
Est-ce qu'il faut suivre leur délire ou pas?
Non, ça dépend à quel point. Il y a des délires qui, justement, l'idée c'est que la société puisse l'air de rien rentrer dans ce, qu'on puisse s'adapter à la société, qu'ils puissent pouvoir vivre comme tout le monde. Donc faut pas rentrer dans tous les délires, mais faut les écouter. Il y a des délires.
Il y a de la raison là quand il dit on va pas changer notre traitement.
C'est pas un
tout
coup, c'est pas un délire.
C'est pas un délire. C'est voilà, une grande raison.
C'est ça. Ça dépend. Faut revenir sur la définition de délire. Là,
oui. C'est un monde qui vous fait peur, Sébastien Lipschitz, ou que vous aimeriez filmer?
En tout cas, la manière dont le film Nicolas, je trouve qu'il y a une humanité, ce sont des gens qui... En fait, c'est surtout ce que je trouve assez merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de censure, en fait. C'est-à-dire que c'est une parole qui a l'air d'une liberté incroyable, et il y a des choses qui se disent... Qui se disent, que je trouve, que je trouve vraiment bouleversante. C'est un peu comme de l'art brut, en fait. Quand je suis fasciné par les artistes qui sont souvent en psychiatrie et qui produisent, en fait, des œuvres. Et souvent, il y a une sorte d'invention, à la fois esthétique. Ouais. Ce sont des mondes. On rentre dans un monde à chaque fois dans une langue. Et c'est vrai que ça me fascine.
Troisième partie de ce triptyque, donc la machine à écrire et autres tracas. Nicolas Philibert accompagne des soignants bricoleurs au domicile de quelques patients confrontés à un problème domestique. Vous faites partie de ces animateurs, hein. Vous vous dites animateur, Bruno Voyot, c'est ça, hein. On vous avait déjà vu sur L'Adamant, ainsi que Frédéric, à qui vous rendez visite. C'est un poète, un musicien, un peintre, pour faire un peu de rangement dans un appartement très encombré.
Jean Cocteau est tombé de sa chaise. Jean Cocteau, il était. Oui. Il y a eu un petit éboulement la semaine dernière.
Ah bon?
Je l'ai remis en place. Je l'ai mis avec François d'Orliac. Comme ça stabilise la pile, quoi. Là, ça tient mieux, quoi. J'ai mis l'Iliade là pour caler.
Oui.
L'Odyssée. L'Odyssée. Je l'ai calé avec l'Iliade. Comme ça, il est tranquille, il est à sa place. Je l'ai remis à sa place. Il est un peu envahissant, alors je l'ai remis à sa place.
Est-ce qu'on peut faire une pile, qu'on puisse faire le tri entre ceux que vous voulez garder et ceux dont vous voulez vous séparer?
Oui, d'accord. Vous voulez faire une pile? On l'appellera Zoé, alors?
Si vous voulez.
On peut l'appeler
Celui-ci, oui. Par exemple.
On l'appellera Zoé. On va faire une pile.
Allez-y, faites une pile.
Une pile atomique, on l'appellera Zoé.
Exactement.
Bruno Voyot, il est très doux, Frédéric. Il est très, oui. Il est calme, il est très cultivé, il est très sensible. Ça fait des années que vous le suivez?
Ça va faire plus de 10 ans.
Oui.
Et en y repensant l'autre jour, il y a eu comme ça deux premières fois, j'ai envie de dire, dans la rencontre avec Frédéric. La première fois, on était dans la... De temps en temps, on fait des balades, on va se promener. Et on était dans la forêt de Fontainebleau, et je le connaissais pas, hein, mais il était parti avec nous. Et il était derrière, et on marchait comme ça, donc en pleine forêt, au printemps, et tout à coup, retentit la voix, une voix magnifique, qui retentit dans la forêt. Et c'était la voix de Louis Aragon. J'étais surpris, qu'est-ce que venait faire, comment c'était possible. Et c'était Frédéric qui était avec son magnéto-cassette, qu'il a tout le temps avec lui, hein, il ne peut pas s'en séparer, et il jouait Louis Aragon sur son magnéto-cassette. Bon, voilà, ça c'était la première rencontre avec lui, et la deuxième, c'était une autre balade, où il était, là on se connaissait déjà un peu plus, et on était à la Roche-Guyon, c'est en Yvelines, je crois, au bord de la Seine, et on monte un pic rocheux, comme ça, pas très élevé, mais quand même, et on se retrouve à un endroit, et là, il sort une bande dessinée, Black et Mortimer, Le piège diabolique. Il ouvre la première page, et la première case de cette première page, nous étions exactement à l'endroit de la première case. Voilà, donc un espèce de raccourci dans l'espace, dans le temps, entre la fiction et ce que nous étions en train de vivre.
À partir de là, vous l'avez aimé?
Oui, 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 il y a quelque chose comme ça, d'une rencontre. Mmh.
Et donc vous allez chez lui parce qu'il entasse, c'est pas Diogène, hein, c'est pas la même chose.
Oui, oui, oui.
Il entasse toute sa vie, il entasse des livres, des disques, des BD, des ce qu'il dessine, et il s'agit de... quand je disais réparer, c'est réparer dans tous les sens du terme ou pas? C'est un prétexte d'aller réparer quelque chose ou d'aller alléger un appartement?
C'est un prétexte et en même temps c'est du texte aussi. J'ai envie de dire. C'est pas que le prétexte, mais c'est un prétexte. Et l'invitation, c'est d'abord nous qui lui avons demandé à pouvoir aller chez lui, parce qu'il nous disait que c'était un peu compliqué, qu'il y avait quelques difficultés. La difficulté était la suivante, c'est-à-dire que Frédéric nous disait, mais finalement, je n'ai plus de place pour écrire, pour dessiner, et que c'était quand même ça qui le rend vivant.
Votre collègue dit qu'il y a, vous pouvez mettre à une personne sur un pied.
Oui, exactement. Donc c'était compliqué d'y circuler. Il n'avait plus la place de faire ses grandes planches de dessin. Et donc notre idée, c'était de dire, ben, on va vous aider à refaire un peu de place pour que vous puissiez continuer à travailler. Donc ça s'est d'abord fait comme ça. Et bah, il nous a invités chez lui. Et puis on l'a aidé petit à petit à refaire de la place, mais en étant très attentif et soucieux de pouvoir prendre le temps avec lui de discuter de tous les objets. Parce que très rapidement, on s'est rendu compte que un tout petit bout de papier qui nous paraissait un bout de facture de Franprix, je ne sais pas, ou pas citer des trucs, mais enfin, un bout de papier... On aurait pu, comme ça, jeter à la poubelle. Non, c'était pas possible, parce que ce bout de papier, il avait une date, donc ça correspondait à un moment de l'histoire, à son histoire à lui, à l'histoire du monde, et que ce papier-là, fallait surtout pas y toucher, parce que l'enlever, c'était comme enlever un bout de l'histoire de la sienne et du monde. Donc ça pouvait venir faire en sorte que ça s'écroule. Donc il fallait pas le toucher, celui-ci. Bon, ce préalable fait... une fois que c'était dit, on pouvait l'enlever. Voilà, on avait pu le parler, on avait pu...
Il faut discuter de tout, quoi.
Il faut discuter de tout.
Nommer les choses, et à partir de ce moment-là, on peut les retirer.
Oui.
Et vous êtes les seules personnes de l'extérieur qui vont le voir chez lui?
Alors, non.
Il y a des voisins qui lui parlent?
Depuis, non. Alors, les voisins, non. Ils ne préfèrent
pas. Pourquoi les voisins, non?
Ça serait compliqué à expliquer comme ça à l'antenne. Surtout que je sais qu'il m'écoute, en plus.
Ah, il vous écoute, on le salue alors.
Bah oui, on salue Frédéric, il nous écoute. Non, c'est très compliqué, les relations avec le voisinage. Et du coup, nous étions les seuls à pouvoir accéder à son domicile. Voilà, ce qui était très important pour lui, parce que tout à coup, il peut nous le dire, il a pu nous le dire assez rapidement après. Enfin, j'ai pu accueillir quelqu'un chez moi et ça me protège. Ça me protège du monde, ça me protège du voisinage, des autres personnes dans le quartier. Et le fait que vous soyez venu chez moi, ça a un effet. Ça me protège. Enfin, il pouvait le dire. Il pouvait le dire comme ça. J'ai oublié votre question.
Et non, c'était justement par rapport à... Vous êtes la seule présence en dehors de...
Alors oui, voisins, je disais. Alors ça s'est passé comme ça au début. Et puis, de fil en aiguille, avec le temps, les choses se sont un peu ouvertes. Si je puis dire, il a pu accueillir de nouveau des copains et d'être ravi, d'être heureux, de pouvoir se dire mais je peux à nouveau accueillir des gens comme tout le monde, d'avoir des copains, de pouvoir passer du temps, de ne plus être tout seul à certains moments. Et avec le temps, là maintenant, on en est même à ce que, j'en profite pour le dire parce que je suis à l'antenne, tout ce travail d'archéologue qu'on a fait chez lui, voire même parfois de géologue, de spéléologue, vraiment, il y a vraiment eu des moments comme ça, c'était vraiment de la spéléologie, on était un peu dans l'arche perdue avec Harrison Ford, on était en plein dedans. Et on a pu redécouvrir avec lui des documents qu'il avait, auxquels il n'avait plus accès, parce que c'était pris dans des strates auxquelles il n'avait plus accès. Donc il a redécouvert des documents de jeunesse. Et par le biais du film sur l'Adamant, des gens le reconnaissent maintenant dans son quartier. Et une jeune femme qui s'appelle Ariana Esperanza, qui est éditrice, fait sa rencontre dans la rue. Et il l'a invitée chez lui. Lui a fait lire des documents. Et du coup, ça va faire l'objet d'une publication. Il va y avoir un livre de Frédéric Prieur, ses écrits de jeunesse. Ça va être publié aux éditions du Rayon Blanc. Bon, mais voilà, mais comme ça, c'est juste pour dire comme ça ça a permis de recréer un commerce dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire d'un échange, d'une circulation avec le dehors, sans que ce soit... un intérieur ou un domicile qui soit complètement clos et fermé.
Anne-Laure Delatte, ce triptyque est indispensable parce qu'il nous raconte énormément de choses. Donc, ses ateliers sur le bateau, ses entretiens, etc., jusqu'à leur domicile. C'est une belle psychiatrie.
C'est une belle psychiatrie, mais voilà, avec le lieu sur l'Adamant, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a l'atelier de radio dont Bruno parlait tout à l'heure.
Tu étais venu d'ailleurs.
J'étais venu. On avait fait aussi un atelier d'écriture où Patrice, qui est dans la machine à écrire, parlait aussi. Et c'était ça, c'est en dehors de l'hôpital. L'idée, c'est de déconstruire le lieu de l'hôpital fermé pour créer des lieux, le CMP, les équipes mobiles et plein de choses pour justement, on va vers l'extérieur, on est dans la société, on est comme tout le monde et c'est ça qui est formidable dans cette psychiatrie.
Et Frédéric aime beaucoup Paul Naref, on l'écoute.
L'oiseau de nuit, love me, please love me. Sous quelle étoile suis-je né ? Celui-là, je l'avais en 45 tours. Quand j'habitais le quartier du Temple, j'avais le 45 tours. Et je l'écoutais souvent à la fin des années 70. C'est là que j'ai découvert Paul Naref. Et il y a un riff de guitare acoustique qui est prodigieux. Quoi. Sous quelle étoile suis-je né ? J'en suis encore à me le demander. Chercherai-je peut-être encore lorsque sonnera l'heure de ma mort ? Paradadadam, tivadampam. Lorsque sonnera l'heure de ma mort. Vous connaissez celui-là ?
Oui.
Cher Frédéric, vous êtes devenu la star de notre émission avec ces deux extraits. Ça ouvre des chakras, non, ces rencontres, non, c'est vrai.
Alors, je sais pas si ça m'ouvre les chakras, mais ça remet de la circulation, vraiment. Et puis pour moi, ça a été une vraie rencontre, mais comme il y en a pu y en avoir avec d'autres. Je repensais à Averroès et Rosa Parks, où on entend François, c'est quelqu'un aussi qu'on connaît depuis longtemps, chez qui on est allé, qui est venu nous voir, qui vient un petit peu moins en ce moment. Je pensais aussi à Laurent, dans Averroès et Rosa Parks, qui disait quelque chose de très beau, qui pour moi résume de manière assez paradoxale, comme il en a l'art, mais ce qu'il raconte de la psychiatrie, c'est-à-dire il dit comme ça, mais on n'est pas dans un monde, on n'est pas dans le monde, on n'est pas dans la vie, mais on est dans un espace protégé. Mais en même temps, ce que Philibert a fait, dit-il, c'est il a pu montrer que dans ces lieux, on peut recréer une image, un monde dans lequel on peut parler de Jésus-Christ, avoir des débats politiques, on peut parler de nous. Voilà, il redit tout ça, c'est-à-dire cet aller-retour, ce va-et-vient permanent entre le dedans, le dehors. On est comme les autres, on n'est pas comme les autres. Voilà, je trouve que ça résume bien la psychiatrie.
La machine à écrire et autres tracas, ça sort le 17 avril. La Véroès et Rosa Parks, c'est sorti le 20 mars. Et Madame Hoffman, ça sort mercredi prochain. Vous restez tous les trois avec nous. On écoute ces superbes chansons d'Alain Chamfort, La Grâce.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse. Comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace?
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Et on va parler des sorties, on va commencer par Agra, une famille indienne, du jeune cinéaste Kanubel, qui est indien, gourou à une vingtaine d'années. Il travaille dans un centre d'appel à Agra, à 2 heures de Delhi. Il est fou amoureux de l'une de ses collègues, Mala. Mais il habite toujours chez ses parents. Leur maison est divisée en 2 parties. Gourou vit au rez-de-chaussée avec sa mère. Son père à l'étage avec sa maîtresse, qui est en fait sa belle-sœur. Bien. Et quand Gourou annonce qu'il veut se marier avec Mala et faire de la terrasse sa future chambre promise par sa mère à leur cousine pour en faire une clinique dentaire, tout bascule. Bref, une maison symbole d'une société tout aussi malade, Laurent, dans un mélodrame et une fresque sociale.
Oui, alors c'est un film qu'on avait découvert à la quinzaine des réalisateurs il y a un an, à Cannes l'an dernier. Et c'est un film effectivement de lieu au pluriel, parce que cette maison, elle est quand même incroyable. Une sorte de plafond de verre pour le pauvre gourou qui a au-dessus de lui son père qui est d'un virilisme absolu. Et puis, Agra, il faut juste le savoir, c'est à la fois la ville du Taj Mahal, donc oui. Prestige, mais c'est aussi l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques de l'Inde. Tiens, on en revient toujours là. Et tout est presque dit sur le personnage du gourou qui est au bord de la folie en permanence. Il est traversé d'hallucinations, de fantômes, sa sexualité est absolument frénétique et manifestement un peu pathologique. Et au fond, ce que Gourou cherche dans sa vie, lui, c'est avoir une chambre à lui. Voilà pourquoi tout est ramené en quelque sorte au lieu et à la à l'espoir de s'y retrouver en quelque sorte. Voilà des choses qui traversent ce qu'on a déjà dit.
Sidonie au Japon d'Élise Girard avec Isabelle Huppert. Elle se rend au Japon à l'occasion de la ressortie de son best-seller. Cette Sidonie, malgré le dévouement de son éditeur japonais, elle perd peu à peu ses repères. C'est un film sur la rencontre, le deuil, en terre étrangère, dans un ton poétique, délicat, avec humour aussi, et même à la lisière du fantastique, Laurent.
Oui, alors, les aventures de Isabelle Huppert au Japon, pas au Japon, en Asie, oui, ont déjà été balisées par Aung San Suu, et dans des films que je trouve, moi, très intéressants, très dans sa filmographie à lui. Alors, qu'est-ce que nous dit celui-ci de plus? Hélas, pas grand-chose. Il est souvent trop dans une sorte d'anecdotique, on est presque dans stupeur et tremblement de nos tons sur l'exotisme, sur des choses comme ça, et là ça fonctionne pas très bien. Reste qu'il y a Isabelle Huppert au centre du film, parce que c'est un film sur elle. Elle est absolument impeccable dans sa capacité comme ça à incarner le propos le plus original du film, c'est-à-dire une sorte de présence absente permanente qui est extrêmement touchante et qui finit par donner au film sa grâce et son charme flou.
Le vieil homme et l'enfant, c'est un premier film signé de l'Islandaise Nina Palmadottir. Gunnar, un vieil agriculteur exproprié de sa ferme, laisse tout derrière lui et part s'installer en ville. Et là, il va se lier d'affection avec un petit livreur de 10 ans.
Oui, alors on aurait aimé dire plus de bien que ça de ce film qui se prend en charge un sujet. Et quel sujet? Parce que l'histoire, c'est que le petit garçon va accuser le vieil homme de choses qu'il n'a pas faites. Bon, c'est dire si le propos est actuel, mais malheureusement...
On s'éloigne du film avec Michel Simon.
Très, très loin, absolument. Et malheureusement, la réalisatrice ne prend pas son sujet à bras-le-corps, comme si finalement elle le refusait un peu, comme si elle était trop prudente par rapport à ce risque qu'elle prend et qu'elle aurait dû assumer jusqu'au bout, ce qui fait par exemple que la fin, qui est une sorte d'ode au retour à la Terre qui solutionnerait tous les problèmes, y compris celui évoqué par le rapport entre le vieil homme et l'enfant, ça franchement, ça devient un peu même malaisant.
Drive Away Dolls d'Ethan Cohen, un premier film de fiction, donc sans Joël, mais avec sa femme Tricia Cook, le road trip vers la Floride de Jamie et Marianne, deux amies lesbiennes. Une libre de corps et d'esprit, l'autre plus réservée. Dans le coffre de leur voiture de location, il y a une mallette convoitée par une bande de pieds-nickelés gangsters. Dans cette mallette, des godemichets moulages en plate de personnalité en vue. C'est un pitch extravagant, c'est un film nerveux, burlesque, impertinent. Loin, c'est vrai, du cinéma des Cohen, c'est ce que disent les critiques. Disons que la moitié du cerveau des frères Cohen va s'affranchir ailleurs, dans un cinéma Z, moins construit, plus paresseux, mais avec beaucoup de moments assez réjouissants.
Moi, je dirais vraiment que un seul frère vous manque et tout est dépeuplé, hein, quand même. C'est vrai, c'est une sorte de caricature de ce qu'on aime, de ce qu'on adore chez les frères Cohen. On a l'impression que les deux héroïnes pourraient être des filles de certains héros et pas n'importe lesquels des frères Cohen, mais ça ne fonctionne pas. Cette espèce de Thelma et Louise,
déjantée,
mais tellement maîtrisée en même temps. Alors ça se passe en 1999, donc Ethan Cohen nous dit oui, mais c'est pour ça, c'est vintage, il faut tout prendre en vintage. Franchement, vu ce qu'ont fait les frères Cohen avant, on est très très frustrés.
Yurt, premier film d'un cinéaste turc à suivre, il s'appelle Nehir Tuna. Turquie 96, Ahmed, 14 ans, est dévasté lorsque sa famille l'envoie dans un pensionnat religieux. Le jour, il fréquente une école privée laïque et nationaliste. Le soir, il retrouve son dortoir. De longues heures d'études coraniques et plus les brimades. C'est un récit autobiographique d'émancipation en pleine bataille idéologique à l'époque entre laïcité et religion.
Oui, c'est un film extrêmement politique, un nouveau film turc, et Dieu sait si régulièrement on a des nouvelles du cinéma turc et des nouvelles très très intéressantes. Celui-là l'est absolument parce que il nous montre des choses historiques, politiques, et dont on voit bien que tout cela préparait Erdogan, c'est-à-dire notamment le père du héros, qui est une sorte de fou de Dieu, un peu affairiste, donc qui mêle les deux choses avec beaucoup de doigté, et c'est tout ça est mis en scène superbement. Il y a un mélange de noir et blanc et de couleur qui est extrêmement maîtrisé. C'est aussi la naissance quand même d'un cinéaste, ce Yurt, et il faut le dire haut et fort.
Le reste va aller très vite, Laurent. C'est la base de Vadim Dumesh. C'est la chronique d'un lieu destiné à disparaître près de Roissy. C'est un lieu où se retrouvent les chauffeurs de taxi.
Magnifique moment de vie, parce qu'en plus, le réalisateur a eu la très très bonne idée de confier la caméra de temps en temps et aux gens du petit groupe qui filment. Donc ça donne des portraits croisés qui sont très passionnants.
Dieu est une femme, en 75, Pierre-Dominique Guesso, explorateur français, se rend au Panama pour réaliser un film. Et ce garçon, Andrés Perrault, le retrouve, ce film.
Oui, alors il faudrait beaucoup de temps pour dire la complexité du film. Mais ce qui est très très étonnant, c'est la façon dont ça détruit un certain mythe de la sociologie, un peu de Lévi-Strauss, le savant qui va voir le bon sauvage. Et le bon sauvage n'a pas forcément envie d'être traité comme ça.
Un premier film belge de Paloma Sermondaï qui s'appelle « Il pleut dans la maison ». C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur sous un soleil caniculaire.
Magnifique film de fiction d'une réalisatrice belge qu'on avait beaucoup aimé le documentaire qui s'appelait
« Petit samedi ».
Elle retrouve vraiment des choses qu'elle avait déjà explorées, notamment les relations familiales, avec cette fiction. Il faut aller le voir, « Il pleut dans ma maison ».
Bon, on place sur Black Flies, hein, de Jean-Stéphane Sauvé. Autant aller revoir « À tombeau ouvert » de Martin Scorsese sur le même sujet. « Quelques jours, pas plus » de Julie Navarro.
On le recommande.
Ah ouais, c'est une comédie politique dans l'époque, finement observée, scénarisée avec profondeur et humour, plus la présence très juste de Benjamin Biolay.
Si vous aimez le cinéma, vous allez à Brive du 8 au 13 avril prochain, festival incroyable avec uniquement des moyens métrages. C'est une très très belle programmation, toujours.
Trois cadeaux
pour vous, Sébastien Lifshitz, un collègue, un certain Alain Cavalier, dont l'amitié, le dernier film sort, trois merveilleux portraits, dont celui d'amis du réalisateur, Maurice Bernard et Florence Delay, Boris Bergman, Thierry Labelle, c'est très très beau, c'est du Cavalier, c'est du filmeur à l'état pur. Pour vous, alors, le nouveau film de Yolande Moreau, La fiancée du poète. Ah, vous faites ah, c'est bien. Le premier DVD chez Tamaza, j'ai oublié de le dire.
Ouais.
Et puis pour vous, Et la fête continue, film de Robert Guédiguian, où il est question notamment d'un immeuble qui s'effondre en plein Marseille. Voilà, on retrouve le Marseille de Sébastien Lifshitz.
Ah oui !
Mais oui, bien sûr. Et c'est un très très beau film de Guédiguian, film choral, où on a aussi la présence d'Homère, tout d'un coup, qui vient traverser magnifiquement le film.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sébastien Lifshitz pour cette Madame Hoffman qui sort mercredi prochain, si beau portrait, si profond. Merci à tous les deux. Merci Anne-Laure Delettre et Bruno Voyot. Donc vous êtes dans ces deux films, Averroès et Rosa Parks, qui est sorti le 20 mars. On rappelle qu'il est toujours visible. Et la machine à découdre, la machine à écrire et autres tracas.
Source de tracas.
Et source de tracas, qui sort le 17 avril. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Trois.
Merci.
Merci à notre belle équipe aussi, Xavier Pestugia à la réalisation, Christophe Magère à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Salut.